L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, le procès de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, devant la CPI à La Haye. En Belgique, une loi pour le bien-être animal. Au Québec, un nouveau gouvernement et donc un nouveau Premier ministre. Au menu également de cette revue francophone, l'arrestation en France de l'homme le plus recherché du pays. Et en Suisse, une expérience de covoiturage entre Genève et la France pour désengorger les axes routiers. C'est l'actualité francophone. Bienvenue à tous. Le docteur congolais Denis Mukwege est donc devenu le nouveau prix Nobel de la paix, Amélie Tulé.
Oui, prix Nobel annoncé ce vendredi matin. Le docteur Denis Mukwege, c'est l'homme qui répare les femmes dans l'est de la République démocratique du Congo. Gynécologue dans son hôpital de Panzi depuis 20 ans, il a soigné plus de 50 000 femmes et enfants. Il dénonce l'utilisation du viol comme arme de guerre au sud Kivu, un territoire marqué par plusieurs conflits et notamment par la prédation autour du coltan. Un minerai indispensable pour nos téléphones portables, un minerai présent en très grande quantité dans le sous-sol de l'Est congolais. Le docteur Denis Mukwege dénonce aussi l'impunité face à ces viols, l'inaction des décideurs et de la communauté internationale face à cette violence chronique. Parce qu'il dérange dans son pays, il a été menacé. C'est avec une grande joie qu'il a reçu ce prix Nobel ce vendredi matin à Panzi, entouré de survivantes de violences sexuelles. Et ses soutiens espèrent que ce prix sera plus qu'une récompense, mais une réelle avancée. C'est pour l'Est congolais et ses habitants.
Ron Oschuli, en Suisse, c'est un paysan de montagne qui fait parler de lui cette semaine.
Armin Kapaul, c'est son nom. Barbe blanche, il ne quitte jamais son bonnet tricoté et son gilet de berger. Il tenait cette semaine conférence de presse à Berne. Son combat, mettre fin à l'écornage des vaches et des chèvres qui touche 90% des ruminants en Suisse. Il a lancé une initiative, contribue à la récolte des 100 000 signatures requises pour qu'il y ait un vote populaire. Et il s'engage maintenant dans la campagne politique. Pour lui, brûler au fer rouge les bourgeons de cornes, c'est s'attaquer à la dignité des bêtes. Il se bat pour un soutien financier aux paysans qui y renonceraient. Les Suisses sont appelés aux urnes sur la question le 25 novembre. C'est aussi ça, la démocratie directe façon helvétique.
Benoît Audet, au Canada, votre personnalité de la semaine, c'est la ministre des Affaires étrangères.
Oui, Chrystia Freeland, qui a conclu cette semaine de difficiles négociations avec les États-Unis pour renouveler l'accord de libre-échange nord-américain. Ces négociations ont duré plus d'un an et ont représenté d'innombrables allers-retours entre Ottawa et Washington pour la ministre Freeland. Le gouvernement canadien dit qu'on a sauvé les meubles dans cette délicate négociation avec l'administration Trump, mais des voix s'élèvent quand même pour dénoncer certaines concessions. C'est le cas des producteurs de lait, entre autres, qui vont devoir céder des parts de marché aux Américains.
En France, une nouvelle démission importante dans le gouvernement Macron, celle du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Quelques semaines seulement après le départ fracassant du ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot. Voilà donc que l'un des premiers soutiens historiques d'Emmanuel Macron préfère lui aussi prendre ses distances. Officiellement pour reprendre sa mairie de Lyon, officieusement, Gérard Collomb reprocherait au président de ne plus entendre les critiques et de s'isoler. Et c'est donc un nouveau coup dur pour le chef de l'État français qui accumule les mauvaises séquences depuis la rentrée politique il y a un mois. En Belgique, Nathalie Devic, sur les courts de tennis, c'est déjà la fin de saison pour David Goffin.
Un coup dur pour notre champion de 27 ans. Blessé au coude, il souffre d'un œdème osseux. Pour lui, c'est bel et bien fini. Il ne jouera plus cette année. Actuellement classé 11e joueur mondial, cette défection pourrait bien le rétrograder au-delà des 20 premiers. Une déception d'autant plus cruelle que l'année 2017 avait été prolifique pour le numéro 1 belge. Aucun titre donc cette saison. Place autant qu'il faudra pour la guérison.
Amélie Tulé pour RFI, dans l'actualité africaine, le procès de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, devant la Cour pénale internationale.
Oui, procès qui a repris cette semaine à La Haye devant la CPI après une pause de 8 mois. L'ex-président ivoirien est jugé pour crime contre l'humanité. Avec Charles Blégoudet, son ministre de la Jeunesse de l'époque, ils sont accusés d'avoir planifié les violences meurtrières qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire lors de la crise qui a suivi l'élection présidentielle de 2010. Cette semaine, l'accusation a déroulé à nouveau ses arguments. finalement, les avocats de Laurent Gbagbo, eux, ont demandé un délai pour préparer leur défense. Le juge a accepté l'audience et donc suspendu.
Et les avocats de Laurent Gbagbo veulent plaider l'acquittement.
Oui, pour eux, l'accusation n'a pas d'éléments suffisants pour prouver que l'ancien président de la Côte d'Ivoire a orchestré les violences de 2010 et 2011. Or, c'est tout l'enjeu de la qualification de crime contre l'humanité. Il faut démontrer l'existence d'un plan concerté du pouvoir de l'époque pour éliminer les civils pro-Alassane Ouattara, l'actuel chef de l'État en Côte d'Ivoire. Les violences de 2010-2011, je rappelle, ont fait 3000 morts dans le pays, suite du procès donc le 12 novembre à La Haye.
Les Québécois viennent d'élire un nouveau gouvernement. Après 15 ans de règne presque ininterrompu du Parti libéral, ils ont élu un parti qui n'avait jamais pris le pouvoir, la coalition Avenir Québec. Benoît Audet, c'est donc tout un défi qu'a relevé le Premier ministre désigné, François Legault.
Oui, il a fondé ce parti il y a à peine 7 ans. Il a subi 2 défaites électorales en 2012 et en 2014 avant de prendre le pouvoir lundi soir dernier. Et sa victoire est sans appel. Il a remporté plus de 70 sièges, ce qui est bien suffisant pour lui assurer la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dans son discours de victoire, François Legault a souligné que le débat sur la souveraineté du Québec avait été pratiquement absent de la campagne, une première depuis des décennies. On l'écoute.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de Québécois qui ont mis de côté un débat qui nous a divisés depuis 50 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Québécois qui ont fait la démonstration que c'est possible de faire travailler ensemble des adversaires d'hier pour travailler pour le Québec de demain, ensemble!
Voilà donc pour ce nouveau Premier ministre François Legault. Benoît Audet, pour les anciens partis, c'est bien une défaite. Hein?
Oui, le Parti libéral et le Parti québécois se sont partagés le pouvoir depuis 1970. Une alternance qui laissait peu de place au tiers parti, mais le réveil a été brutal. Le Parti québécois n'a obtenu que 9 sièges, son pire résultat depuis 1973. Il n'a même plus le statut de parti officiellement reconnu à l'Assemblée nationale. Le Parti libéral, lui, a subi le pire revers de son histoire en termes de suffrage exprimé. Il a perdu plus de la moitié de ses députés et la majorité d'entre eux se retrouvent dans des bastions de l'île de Montréal. Enfin, il y a un autre gagnant dans cette soirée électorale, c'est Québec solidaire, un parti de gauche qui ne comptait que 3 députés à la dissolution de l'Assemblée. Il en compte maintenant 10.
En Belgique, Nathalie Devic, les animaux seront désormais mieux protégés.
C'est l'objectif du nouveau code wallon du bien-être animal qui précise d'emblée, article 1er, que les animaux sont des êtres sensibles, autrement dit capables de ressentir des émotions et donc de souffrir. Rien de révolutionnaire à cela. Par contre, le fait que ce soit à présent écrit noir sur blanc dans la législation implique une interdiction absolue de les maltraiter au sens le plus large. Par exemple, il devient désormais interdit de détenir en cage des poules pondeuses, ce qui va contraindre une dizaine d'élevages wallons à se mettre en conformité. Interdit aussi de garder des cétacés en captivité, fini donc les delphinariums. Terminé également les manèges à poney, les hippodromes de kermesse, aux oubliettes les combats de coqs, ou de quelque autre animal d'ailleurs. Et puis tous les abattoirs devront maintenant être équipés de caméras de surveillance. Il y a eu trop de cas de maltraitance.
Oui, et désormais en Wallonie, il faudra même un permis pour détenir un simple animal de compagnie.
Absolument, un permis octroyé dans un premier temps automatiquement, mais qui pourra être très rapidement retiré si l'on parvient à prouver que votre animal est maltraité. Plus question donc d'exciter sa férocité, de le laisser attacher en permanence, voire de le peindre ou de le colorer comme certains pauvres chiens ou oiseaux. Et puis, obligation formelle assortie au permis délivré de procurer les soins appropriés aux compagnons dont vous avez l'entière responsabilité.
Avec Nathalie, des sanctions sévères hein, pour ceux qui ne prendraient pas cette nouvelle loi au sérieux.
Elle est plus dissuasive possible, de 10 à 15 ans de prison dans les cas les plus graves de maltraitance avérée et jusqu'à 10 millions d'euros d'amende. Le signal se veut très clair, fini le laxisme. Aujourd'hui, maltraiter une bête est considéré comme une infraction de première catégorie. Le texte adopté cette semaine au Parlement wallon à la quasi-unanimité fait ainsi de la Wallonie l'une des régions les plus progressistes d'Europe en la matière.
Voilà une expérience inédite entre Genève et la France voisine, expérience de promotion du covoiturage qui débutera lundi à la douane entre les deux pays. L'objectif est simple, il s'agit de désengorger les axes routiers empruntés chaque jour par des milliers de frontaliers. Ron Oschuli, quelle est la recette en fait ?
Un couloir prioritaire sur l'autoroute sera réservé aux véhicules qui transportent au moins deux personnes. Cette voie, longue d'un kilomètre à cheval sur la frontière, sera ouverte par les douaniers de 6h à 9h du matin dans le sens France-Suisse et de 16h à 19h en sens inverse. Un projet pilote lancé conjointement par les autorités genevoises et l'opérateur autoroutier français ATMB.
Et l'objectif, c'est bien de fluidifier le trafic.
Oui, il faut le rappeler, le canton de Genève enregistre chaque jour 600 000 passages de véhicules à ses postes frontières, générés surtout par les pendulaires, qui doivent quotidiennement s'armer de patience, et ce, sachant que le taux d'occupation moyen est aujourd'hui de 1,2 voyageurs par véhicule. L'option du covoiturage pourrait donc être très séduisante, puisque le nouveau couloir autoroutier devrait offrir un gain de temps de 33% selon les premières études.
Oui, et l'avantage aussi de ce projet, c'est son faible coût financier.
Effectivement, les responsables le confirment, si ça ne marche pas, il suffira d'arrêter sans qu'il y ait catastrophe financière. En revanche, si elle est concluante, l'expérience qui ne concerne pour l'instant qu'un seul passage de frontière pourrait être étendue. Autre bénéfice, davantage de covoiturage signifierait aussi moins de trafic dans une ville de Genève souvent engorgée. Enfin, sur le plan symbolique, voilà une collaboration transfrontalière concrète. Enfin, a-t-on presque envie de dire, parce que les sources de tension n'ont pas manqué ces dernières années entre Genève et les communes de France voisine.
Il était l'homme en cavale le plus recherché par la police française. Redouane Faïd a été arrêté cette semaine en région parisienne, 3 mois après s'être évadé de prison. Ce braqueur, surnommé le roi de l'évasion, avait été condamné à 25 ans de prison pour un hold-up raté qui avait coûté la vie à une policière en 2010. Depuis son évasion par hélicoptère en juillet dernier, les enquêteurs avaient la certitude que Redouane Faïd était revenu dans sa région d'origine et plus précisément dans la ville de Creil, la ville de son enfance. Voilà pourquoi les policiers scrutaient depuis des semaines les caméras de vidéosurveillance. Ils filtraient aussi de nombreux appels téléphoniques. Une surveillance qui a permis de repérer une voiture suspecte conduite par une femme. La suite, elle est racontée par le procureur de Paris, François Molins.
Les enquêteurs se sont rendus compte que cette jeune femme prenait à bord de son véhicule une personne vêtue d'une burqa dont l'allure laissait supposer qu'il pouvait s'agir d'un homme. Les enquêteurs ont vu l'individu, vêtu d'une burqa, sortir du véhicule C2 et entrer au domicile de la jeune femme située rue Carpeau à Creil. Les enquêteurs ont saisi dans l'appartement de la rue Carpeau un revolver chargé qui était placé à portée de main directe de Redouane Faïd, une arme automatique de type Uzi, deux burqas, des perruques ainsi que des téléphones portables.
Voilà, on notera donc que Redouane Faïd disposait d'armes à portée de main quand le commando de police est venu l'interpeller dans la nuit, mais a priori l'homme le plus recherché de France a préféré ne pas ouvrir le feu. Il séjourne désormais à l'isolement dans la prison de Vendin-le-Vieil. C'est l'une des prisons les plus sécurisées de France. Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.